Juin 2012. Après 4 ans de récession et 2 ans d'austérité implacable, les Grecs sont à genoux. Ils ont voté, la rage au ventre, pour des législatives anticipées et pour la première fois, le parti néo-nazi grec Aube Dorée entre au Parlement avec 18 députés. Le pays est sous le choc. Dès le soir de sa victoire, le ton est donné. La presse doit se mettre au garde à vous. Désormais, l'heure est grave. Je suis journaliste, je dois rendre compte des événements de façon impartiale. Mais peut-on rester impartial dans ma situation? Mon homme est juif, un de mes fils gay, un autre un art, et moi, féministe de gauche, fille d'immigrés. Si Aube Dorée vient aux affaires, notre seul problème sera dans quel wagon nous monterons. Je le sais d'autant plus qu'Aube Dorée, je la suis depuis des années. Professionnellement, je couvre son ascension. Les premiers bureaux de l'organisation étaient à deux pas de chez moi.
Angélique Cournis, bonjour.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste, réalisatrice et metteuse en scène. Peut-être d'autres choses encore. Est-ce que j'ai oublié des choses?
J'écris des livres.
Oui. Alors, autrice, on dit.
Voilà.
Vous avez réalisé en 2016 Aube Dorée, une affaire personnelle, où vous tentiez de nous mettre dans la tête des Aube Doriens qui se posent en victime du système. Et vous vous présentez en ce début 2021 Aube Dorée, l'affaire de tous, un second volet pour lequel vous appelez à soutien financier pour terminer de payer correctement tous les gens qui ont accepté donc, de travailler à moindre coût.
C'est des professionnels très engagés dans la lutte antifasciste, des gens qui par ailleurs travaillent de façon professionnelle, correcte et continue avec d'autres réalisateurs et réalisatrices qui peuvent, heureusement pour eux, les payer correctement. Mais j'ai par exemple la musique qui a été faite par un musicien qui est un musicien de théâtre. L'étalonnage a été fait par la personne qui a fait l'étalonnage des documentaires sur la crise grecque catastroïka de Haris Hadistéphane, qui sont vraiment les meilleurs sur la question. Non, c'est des vrais professionnels qui savaient que je n'avais pas du tout de fond et qui, par leur engagement antifasciste, ont décidé de le faire sans être payé. Mais par exemple, la personne qui a fait le mix sonore, qui est très très important parce qu'il y a des documents historiques dans ce second film, issus du tribunal, enregistré avec un téléphone portable parce qu'on n'avait pas le droit de le faire, c'est le métier à plein temps. Donc c'est pour ça que je voudrais quand même payer les gens. Le caméraman est un caméraman professionnel. Voilà.
Et donc, on en reparlera de cet appel à financement. Et avant de parler justement de cette actualité récente de la Grèce, en tout cas sous cet angle-là, de l'histoire d'Aube Dorée, est-ce qu'on peut resituer le contexte dans lequel naît à l'époque Aube Dorée, en quelques mots pour les auditeurs et auditrices qui n'auraient pas vu votre premier film, Aube Dorée, une affaire personnelle?
Alors, Aube Dorée est une organisation qui a vu le jour dans les années 90, qui à l'époque était vraiment une nébuleuse qui concernait vraiment qu'une poignée de personnes, mais déjà ouvertement et totalement nazie et qui ne s'en cachait pas. La feuille de chou qu'il publiait avait une iconographie tirée directement de l'iconographie des années 33-39 de l'Allemagne nazie. C'est des articles de part d'Hitler et du Troisième Reich et de la ségrégation raciale, de la suprématie de la loi blanche et bien sûr tout ce qui n'est pas blanc et particulièrement juif ou homosexuel ou lesbien ou trisomique était à envoyer dans les camps d'extermination. Donc c'était très ouvert. Et puis, soudainement, dans les années 2000, cette organisation a décidé de se constituer en parti politique et qui faisait, dans les premières élections qui ont suivi, moins de 2%. Mais la logique était que la constitution grecque et la loi grecque interdit on interdit des partis. On ne peut pas dissoudre un parti. Ça, pour bien comprendre, quelle que soit son idéologie, y compris bancaire ou fasciste, et ça, il faut le comprendre parce que la Grèce, dans le passé, a eu des régimes fascistes, des régimes collaborationnistes, des régimes dictatoriaux, une dictature des colonels, qui avaient interdit les partis de gauche. Donc, la dictature des colonels qui avait pris le pouvoir en 67 est tombée en 74, et qu'il y a eu une nouvelle constitution, il a été décidé, pareil à toute éventualité, qu'il ne serait, il serait impossible d'interdire un parti, de par la constitution. Au moment où je vous parle, après la décision historique du 7 octobre, qui est l'objet du film, de mon second film, Obdoré a été qualifié d'organisation criminelle. Et toute son équipe parlementaire élue en 2012 est actuellement en prison pour un minimum de 5 ans de prison. Et il y en a certains, dont le chef et le fondateur, le négationniste Nikos Mitraliakos, lui est en prison pour 13 ans et 8 mois, ainsi que tous ses chefs. Mais le parti existe toujours, parce qu'on ne peut pas interdire un parti. Donc ça, c'est la particularité de la Grèce, dans laquelle Obdoré s'est engouffré, et au bénéfice de la crise inhumaine qui a sévi pendant 10 ans en Grèce, où la Grèce est passée sous une tutelle économique étrangère, où toute sa richesse était privatisée, où les salaires et les retraites ont été baissés 13 fois, où les gens se sont retrouvés à la rue, 30% des Grecs étaient sous le seuil de pauvreté et autant n'avaient pas accès aux soins, eh bien Obdoré, le tout bien évidemment sur fond de crise migratoire qui fait qu'il y avait aussi ce problème, non pas que la migration est un problème, mais le fait que le gouvernement grec n'apportait aucune solution et que l'Union européenne fermait les yeux, eh bien sur cet ensemble-là, Obdoré a surfé. Et Obdoré est arrivé à avoir presque 7% de voix dans les élections. Et pendant 7 ans, elle est restée au pouvoir avec entre 18 et 17 députés au Parlement grec, ce qui a été la période la plus noire du Parlement grec, si on exclut celle où le Parlement a été fermé durant la dictature. C'est comme ça qu'Obdoré a pu se faire la place qu'elle avait avec la complicité des médias grecs qui ont caressé Obdoré dans le sens du poil, à quelques rares exceptions près.
Alors est-ce que vous feriez en tout cas vous un distinguo entre les membres actifs et convaincus d'Obdoré, dont certaines on a entendu sont derrière les barreaux, et les personnes séduites par son discours, voire son aide? Comment on peut les distinguer, les gens qui sont séduits et les membres actifs de...
Alors moi j'établis un très fort distinguo, et mon collègue et co-auteur Thomas Jacobi, qui est tombé deux fois victime de passage à tabac régulier par les obdoriens, partage mon avis. Mais en revanche, il faut que je dise par honnêteté que l'équipe qui a fait le montage, l'étalonnage, enfin qui a fait tout le travail technique du premier film, Obdoré, une affaire personnelle, elle était complètement en opposition, et ça a donné lieu d'ailleurs à des discussions enflammées. C'est que pour... Et je voudrais signaler que si le premier film a pu le faire, c'est vraiment avec le soutien et la technique de l'équipe de Omnia TV en Grèce. Ce que je voulais dire, c'est que pour moi, il y a un distinguo. Pour eux, non. Et moi, mon distinguo, je le vois parce que dans le premier film, je rencontre des gens qui sont des gens très pauvres, qui ont perdu leur emploi, ils ont vu leur retraite être laminée 13 fois. Et c'est des gens qui ont cherché de l'aide dans les mairies de gauche, mais les mairies leur demandaient tout un nombre de justificatifs, de papiers, etc. Et les petites gens, si on prend la définition des petites gens au sens de Simenon, par exemple, eh bien les papiers, c'est pas leur truc. C'est des gens simples, c'est des gens qui sont au bout du rouleau. Vous savez, 10 ans de crise, ça vous met à genoux. 10 ans de crise, ça vous trouble l'esprit. Je ne leur donne pas raison, mais je ne les mets en aucun cas sur le même niveau que l'équipe dirigeante d'Obdoré, qui étaient des nazis déclarés, avec la croix gammée tatouée sur leurs bras, qui participaient aux sections d'assaut dans les rues, qui tabassaient les gens, les blessaient, les rendaient invalides ou même qui tuaient. Ces gens-là, c'est ceux qui sont actuellement en prison. Les autres, c'est le potentiel des électeurs qui les ont élus durant 7 ans. C'est inexcusable parce que à minima, ils sont quand même ouvertement racistes, puisqu'ils trouvent normal que eux seuls, grecs, puissent bénéficier de la distribution de la nourriture gratuite à laquelle se donnait Obdoré. Mais ce n'est pas des nazis, ce n'est pas des gens qui adhèrent à la différenciation raciale, au tassage et à la mise à mort et à l'assassinat de gens. C'est une grande différence pour moi. Et comme dit un de mes personnages dans le film que j'ai terminé en ce moment et pour qui je pense à l'appel de fond, c'est que dans une démocratie, qu'elle soit bourgeoise et qu'on soit ou pas d'accord avec cette démocratie, on peut livrer bataille pour tenter d'interdire et envoyer en prison ceux qui sont nazis et qui utilisent leur idéologie nazie comme mobile pour procéder aux assassinats et aux meurtres sur la base d'une idéologie raciste, antisémite, homophobe, etc. Mais les gens qui élisent ces personnes, dans une démocratie, ne peuvent pas être poursuivis. Ces gens-là doivent être convaincus. Et il faut quand même savoir que si à chaque fascisme qui arrive au pouvoir, fascisme ou nazisme, c'est une révolution de la gauche qui a échoué. Si la gauche avait été plus à même de s'organiser, peut-être que les choses auraient été différentes. En tout cas, en Grèce.
Ici, je ne vois pas d'hommes en noir, pas de gros bras, mais des gens plutôt âgés, la classe moyenne laminée par la crise, qui cherche une aide, et un Haris qui se fait le relais de cette demande.
Il y a des combattants et des combattantes qui parfois sont à la limite de la famine, si je puis dire. Mais ces gens ne demandent pas notre aide financière. Ils ont leur fierté. Ce qu'ils demandent, c'est juste du travail. Si quelqu'un pense pouvoir donner du travail, un petit boulot, même une seule journée de travail, pour que la personne gagne le nécessaire avec dignité, la tête haute, sans mendier.
Je suis confuse. Où est cette aube dorée dangereuse qui attaque tout ce qui est différent? Au moment où le doute s'installe, survient l'impensable. Pendant que je mène une interview avec le secrétaire général de la section, Haris oublie qu'il a encore le micro et se lâche. Il donne des consignes à ses militants et surtout à Kostas Dena, candidate comme lui au conseil municipal d'Alemo. Les masques tombent.
Les journalistes arrivent avec leurs caméras et posent des questions à chacun. Attention à ce que vous dites. Hein. Nous ne sommes pas racistes. Vous allez faire en sorte d'éviter tout ce que nous disons ici. Nous ne sommes pas racistes. Nous sommes nationalistes. Attention parce qu'il y a des questions pièges.
Est-ce qu'on peut situer peut-être l'architecture d'Aube Dorée, combien il y a de strates justement entre la base des gens qui élisent ou sont dans les sous-populaires qu'on peut organiser Aube Dorée et le haut? Est-ce qu'il y a d'autres strates, des petits chefs, des choses comme ça? Comment ça fonctionne?
Alors Aube Dorée, ça a été très bien démontré dans le procès qui a duré 5 ans et demi et qui est la colonne vertébrale du film que j'ai terminé. Aube Dorée est une structure pyramidale à caractère militaire. Les ordres viennent d'en haut, transmis par le milieu, exécutés par le bas. L'assassinat de Pablo Suissas, qui a donné un rapport antifasciste, qui a donné lieu pour la première fois à l'instruction et à l'ouverture des poursuites judiciaires contre les membres d'Aube Dorée et contre, c'est là, c'est une première unique au monde, contre un groupe, l'ensemble d'un groupe parlementaire légalement élu, eh bien, cet assassinat a été ordonné par la direction qui a relayé à la section du Pirée que ce gars-là devait être buté, et c'est un militant de base qui l'a fait, qui lui a été condamné à la perpétuité. Mais ça ne s'est pas fait sur le mode Mikhail Oliakos, fondateur négationniste du parti, qui s'est levé un matin et qui a dit « il faut tuer Pablo Suissa ». C'est pas comme ça que ça s'est fait. On a un militant rencontre, ou même va à la rencontre de Pablo Suissa dans une cafétéria. Il appelle ses collègues en disant « il y a Pablo Suissa devant nous, qu'est-ce que je fais ?» Chef supérieur appelle son chef supérieur à lui, et là, l'ordre est passé, on le bute. Et c'est ce qui s'est passé. Parce qu'on a, et ça je le démontre dans le film, avec l'aide de l'organisation Forensic Architecture qui a complètement fait toute la chronologie du meurtre, de l'assassinat, Pablo Suissa a été poignardé pendant que des gens le tenaient. Et après être poignardé, il a été passé à tabac par des gens qui se relayaient pour le taper pendant que d'autres le tenaient. Et minima, la police a laissé faire. Donc c'est vraiment une organisation criminelle qui a utilisé des sections d'assaut, qui étaient entraînées à tabasser et à tuer.
Alors, Angélique Cournis, on est toujours avec vous sur les ondes de Radio Albitzès. Au-delà de produire un discours qui trouvait un écho dans une petite partie de la population grecque, Obedore, donc, vous l'avez dit, c'est avant tout des méthodes autoritaires, mais aussi autoritaires au sein de la mouvance nationaliste grecque, puisqu'il ne représente pas toute la mouvance, mais ça serait les plus autoritaires, les plus violents.
Je me permets de rectifier. Ah. Ce n'est pas des méthodes autoritaires, c'est des méthodes nazies. C'est complètement différent. Derrière une méthode nazie, il y a une idéologie nazie qui fait qu'on tue tout ce qui est différent. Et le procès qui a eu lieu actuellement, et qui s'est terminé le 7 octobre, eh bien, était basé sur trois affaires. La première, c'était l'assassinat de Pavlos Fissos, le passage à tabac et deux personnes ont été rendues invalides à vie, des ouvriers pêcheurs égyptiens. Et le troisième, ça a été le passage à tabac des syndicalistes du Parti communiste. Et ces trois-là, c'est les trois ennemis du nazisme. Pavlos Fissos, le militant antifasciste, les Égyptiens, les immigrés, les syndicalistes évidemment, qui sont toujours opposés au fascisme, au nazisme. Donc, c'est pas que nous avons affaire à une mouvance autoritaire. En ce qui concerne Obedore, nous avons affaire à une mouvance nazie. Mais vous avez tout à fait raison de dire qu'elle se place dans l'extrême droite grecque, qui malheureusement est assez importante. La différence de l'extrême droite grecque, c'est qu'elle a été incorporée dans le parti conservateur actuellement au pouvoir, qui d'ailleurs a quatre ministres issus de la mouvance d'extrême droite. Pour des raisons historiques que je ne vais pas développer là, parce que ça serait beaucoup trop long, on va dire que la particularité de la Grèce, c'est qu'au lendemain de la Première Guerre, de la Seconde Guerre mondiale, ceux qui ont collaboré avec les nazis se sont retrouvés au pouvoir, ceux qui les ont combattus ont été poursuivis. Ça a donné lieu à une guerre civile, de 46 à 49, où là aussi, des fortes forces fascistes d'extrême droite qui l'ont remporté. Donc tout ce qui était rouge, vaguement rose, anarchistes, communistes, socialistes, ont été soit en prison, soit tués, soit exilés, et se sont retrouvés au pouvoir les forces réactionnaires, ou réactionnaires, c'est-à-dire fascistes ouvertement d'extrême droite. Bien, ces gens-là, après ça a débouché avec le temps sur la dictature des colonels en 67. Ben, cette partie de l'extrême droite a été intégrée dans le parti conservateur, dans le grand parti conservateur grec, qui est actuellement au pouvoir. L'un de ses premiers ministres, Adonis Samaras, venait de la mouvance très 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 à droite, où il avait par exemple la question migratoire, adopté complètement le discours de Obedore. Actuellement au Parlement grec, il n'y a plus Obedore, Dieu merci, mais il y a un parti d'extrême droite, qui s'appelle la Solution grecque. C'est des bouffons, mais c'est des bouffons dangereux. Parce que par exemple, le peuple grec les a envoyés au Parlement pour dire pourquoi je dis que c'est des bouffons. Parce que le mec qui a été élu, c'est un gars qui disait il mettait ça en vente à la radio, à la télévision, qu'il avait des lettres que Jésus lui avait écrites et qu'il avait des baumes spécifiques pour faire pousser les cheveux ou arrêter les hémorroïdes. Je n'exagère pas, on peut parfaitement le vérifier. Donc les Grecs ont envoyé ce mec au Parlement européen, au Parlement grec, et il a envoyé une personne de ce parti au Parlement européen. Donc, on a une mouvance d'extrême droite. Ce qui était en train de se faire quand Obedore était là, c'est qu'elle s'atomisait, elle sortait, à cause de la crise, du Parti conservateur pour devenir autonome. Parce que pendant un moment, le Parti conservateur a été tenu responsable, tout comme le Parti socialiste grec, de la crise qui sévissait. Donc, les deux grands partis qui occupaient l'espace politique grec depuis presque 70 ans, étaient accusés d'avoir mené le pays à la crise, à la faillite. Donc les gens se sont tournés vers d'autres partis qui ne sont jamais arrivés au pouvoir, Obedore. Et c'est là où je dis que la gauche a une responsabilité. Parce qu'Obedore était prête et pas la gauche.
Hache et feu aux chiens rouges.
Aimable, poli, pas toujours.
Sans honneur, Obedore.
Ici, Amélie Ralla, dans le Péloponnèse, lors de la cérémonie traditionnelle pour la droite à la mémoire de ceux qu'elle estime ses victimes de la guerre civile, les députés et cadres Obedore jouent les gros bras, même avec les membres des familles des victimes. Chassent le maire du village, et c'est Ilias Kassiliaris, étoile montante du parti, qui prend la parole.
C'est fini, on fonce. Prends le micro tout de suite. Amène cinq gros bras, je te dis.
Les hommes en noir règlent à leur façon leurs différends avec des opposants politiques, pourtant tout aussi nationalistes. La violence est leur arme politique.
Casse-toi, sale pédé. Et tu te dis nationaliste en plus ? espèce de merdeux.
Avec la presse aussi. J'avais l'autorisation de filmer, mais j'ai pourtant été agressé par un cadre du parti. Je ne dois mon salut qu'au député Nikos Michos qui est intervenu.
Pourquoi vous filmez ? Prends le téléphone. Qu'est-ce qui vous prend de filmer ça ?
Si, j'ai l'autorisation de monsieur Kassidiaris. Pardon ? Ah non, non !
Μέρα είναι ωραία για να πεθαίνεις όμορφα και όρθιο σε δημόσια θέα. Με λένε Παύλο Φίσα από τον Περέα. Έλληνας και ό,τι συνάδει αυτό, όχι μια σημαία. Μελάνο γείτονα γόνο του Αχιλέα και του Καραϊσκάκη. Κι αν όντως ξέρω κάτι, είναι πως γεννήθηκα ήδη με δύο καταδίκες βαριές. Φορτωμένος πάνω στην πλάτη, δυο φτερά από γένα. Πάνω στο σώμα μου ραμμένα. Που δυστυχώς τερουγίζουν μόνο μέσα από την πένα. Και κάνουν όλα γύρω μου να μοιάζουν μάταια. Ειδικά όσα θυσιάστηκαν για μένα. Μα δεν θυσιάζω τίποτα που θυσιάζεται. Δεν θυσιάζομαι για όποιον θυσιάζει. Μάλλον θα φταίει που τα πάντα σπάζομαι. Ίσως να φταίει η επόμενη μέρα που πλησιάζει. Γι' αυτό σου λέω όλα καλά. Ηρέμησε τα ζόρια σου, τα ζόρια μου. Κοίτα ψηλά τα αστέρια. Απόψε μοιάζουν να είναι τόσο φωτεινά. Το θέμα είναι να παίζεις την μπάλα σωστά στα χέρια.
Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του. Και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτάς πως παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά. Έχουμε Θεό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του. Και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτάς πως παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά. Έχουμε αδερφό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του. Και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτάς πως παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά. Έχουμε Θεό. Τραβάει ο καθένας μάγκα μου τα ζόρια του. Και κουβαλάει το δικό του σταυρό. Τι με ρωτάς πως παίρνω. Τι να σου πω, δόξα τα λεφτά. Έχουμε αδερφό.
Angélique Kourounis, je rappelle donc qu'on vous reçoit pour une actualité avec un nouveau film après Aube Dorée, une affaire personnelle, un film L'Aube Dorée, l'affaire de tous. On va parler un peu plus justement de l'actualité. Vous écriviez récemment, on commence l'année 2021 sans les sections d'assaut dans les rues, avec les dirigeants d'Aube Dorée en prison pour pas mal d'années. Au terme d'un procès qui a duré 5 ans et quelques, Aube Dorée a été jugé et condamné en tant qu'organisation criminelle. Pouvez-vous nous parler de la genèse de ce second volet? Justement, entre les deux films, qu'est-ce que s'est-il passé et pourquoi ce film ?
Eh bien, en fait, Aube Dorée, ça fait des années que je travaille dessus et que je la filme. Avant de le faire, je la couvrais en tant que correspondante grecque pour les journaux et les médias français. D'ailleurs, le premier film que j'ai fait, c'était pour la télévision suisse, c'était le rapport entre Aube Dorée et l'Église, qui est un rapport malsain. Après, j'ai fait un arté-reportage sur les promesses électorales d'Aube Dorée qui retraçait toute la vie politique électorale, comment Aube Dorée, en 2014, et malgré le meurtre de Pavlos Fissas, malgré le meurtre de Savzat Loukman, malgré les nombreux blessés, les Grecs, ils ont encore voté, donc ils ont encore envoyé 17 députés au Parlement et au moins 2 au Parlement européen. Après, j'ai fait Aube Dorée, une affaire personnelle. Là, je viens de terminer Aube Dorée, l'affaire de tous, quelle résistance, c'est le titre. Et puis, le 29 janvier passera sur la télévision suisse un espèce de conclusion qui est quel est l'impact de ce verdict sur l'extrême droite et la société grecque, mais l'extrême droite européenne. Et la genèse de ce second long métrage, puisqu'il fait 120 minutes, c'est que j'étais restée sur ma faim. Si les gens qui ont vu le film ou les gens qui vont le voir, puisqu'il est libre d'accès sur Internet, vont voir que la dernière séquence du film, c'est des gens qui embrassent le dirigeant négationniste Nikos Michaloliakos au cours de sa campagne électorale dans le Pirée, en disant « Aube Dorée, c'est la seule solution, il faut le savoir, c'est elle qui sauvera la Grèce ». Donc on était complètement plombé par ce film en se disant « bah merde, ils y sont presque ». Et là, ça me semblait complètement incomplet de ne pas couvrir l'intégralité de ces 5 ans qu'a duré le procès. Dans le premier film, il y a l'ouverture du procès. Dans le second film, il y a toute la lutte de la société grecque, de la mouvance antifasciste, pour mener à terme, pour arriver au résultat du 7 octobre qui a été la condamnation d'Aubery en tant qu'organisation criminelle. C'était du jamais vu. C'était pas possible d'avoir fait le film, d'avoir fait tous ces films sur Aubery en tant que, qu'organisation et parti menaçant la démocratie et la vie des gens, et ne pas faire un film, ne pas terminer le travail en montrant comment la société grecque a répondu à cette menace. Alors il y a mis le temps, parce qu'Aubery a commencé à agir encore une fois dans les années 90. Au départ, lorsque le procès a commencé, c'est un procès très médiatisé, mais il a été médiatisé quoi ? Une semaine. Après, c'était le gouffre. Après, il n'y avait personne. Moi, chaque fois que j'allais aux audiences, il y avait quatre tondus et deux pelés. Et toujours la mère de Pavlos Fissas, qui est devenue en fait la figure de la lutte antifasciste en Grèce, et pas seulement. Marza, c'est elle qui a mené, c'est elle qui a réveillé les consciences en Grèce. Parce que, ok, les électeurs d'Aubery, les électeurs, les électrices d'Aubery, c'est 500 000 personnes, mais c'est 500 000 personnes qui ont envoyé des députés au Parlement alors qu'on savait qu'elles avaient que ces députés, ces gens-là avaient tué, alors qu'on savait qu'ils étaient racistes. Donc là, il y a certainement un questionnement de la part de la société grecque, parce qu'il y avait ceux qui ont agi, qui ont voté, et ceux qui ont laissé faire, et ceux et celles qui se sont dit, ouais, ben, bon, peut-être, ils exagèrent, mais il y a aussi la gauche, les anarchistes dans la rue qui tapent, alors c'est peut-être pas plus mal. Puis il y a l'énorme responsabilité des médias. Donc, c'était pas possible de pas couvrir tout cela. Et la question que je me suis posée, c'est, ok, nous avons Aubery en Grèce, nous avons une autre extrême droite, comme vous l'avez si bien dit, en Grèce, mais il y a aussi Jobbik en Hongrie, le Front National en France, PiS en Pologne, bon, Trump, on n'en parle même pas, Bolsonaro au Brésil. L'extrême droite, elle va en poupe. Et ça, c'est un questionnement que devrait avoir la gauche. Ceux qui ont sauvé l'honneur en Grèce, c'est quand même les mouvements antifascistes. C'est les mouvements qui faisaient les raids motorisés, c'est les mouvements qui allaient casser les bureaux d'Aubery. C'est à un moment, il faut que ça s'arrête. Et la question que je me suis posée, c'est comment est-ce qu'on peut arrêter ? Quelle est la meilleure riposte possible ? Est-ce que c'est la justice avec le procès qui a eu lieu ? Est-ce que c'est le système politique avec les cordons sanitaires qui ont été mis en place au Parlement européen, par exemple, où j'ai été filmée, ou même dans la société grecque ? Est-ce que c'est les médias ? Parce que la responsabilité des médias est énorme. Alors, si les médias font gaffe, et là, dans le film que j'ai fait, il y a une séquence qui reprend la responsabilité des médias dans la montée des fascismes à l'entre-deux-guerres. Il faut savoir que, pour la presse américaine, Mussolini et Hitler, au départ, étaient des gens très très bien, puisqu'ils cassaient du rouge. Mmh. Et puis, l'autre solution, c'est l'éducation. Est-ce qu'en fait, le problème n'est pas l'éducation ? L'éducation est aussi un problème. Ou est-ce que c'est, en fait, tout ça en même temps ? Ou est-ce que c'est la lutte antifasciste qui ne dit pas non à la force ? Et à la violence, j'ai un groupe qui m'explique sa façon d'agir en disant, bah, au bout d'un moment, s'il y en a un qui doit tomber, bah, ça ne va pas être nous. Donc, est-ce que c'est une de ces solutions ou est-ce que c'est toutes les solutions en même temps ? Et c'est pour ça que j'ai questionné, c'est pour ça aussi que le film fait 120 minutes, parce que sinon, ça aurait été quelque chose qui aurait été plutôt succinct. Moi, j'avais envie d'aller au fond des choses. C'est un peu tout ça, en fait, pour arriver à la conclusion. Mais il faut un personnage central. Et le personnage central qui a mené cette lutte, ben c'est Marza Fissa. Marza Fissa est celle qui a montré la route, celle qui a soutenu les gens, soutenu la partie civile, et c'est celle qui a réveillé encore une fois les consciences. Les gens se sont identifiés à cette mère qui a perdu son fils. Les gens se sont identifiés à cette mère qui, tous les jours, pendant 5 ans et demi, qu'il neige, qu'il pleut ou qu'il vente, était au procès. C'était ça. Il y a eu d'autres enfants qui ont été tués, non pas par Aubery, mais par des policiers qui étaient également fascistes. Je parle de Alexis Grigoropoulos, qui a été tué en 2008, en décembre 2008. Ses parents ont préféré faire un procès uniquement aux policiers sur le mode « nous, on veut que lui soit puni ». En fait, il n'a même pas été puni. Il était condamné, puis ils l'ont fait sortir. Marvin a pris le risque d'inclure le cas de son fils dans la poursuite générale d'Aubery. Si elle n'avait pas fait ça, Aubery n'aurait jamais été condamné en tant qu'organisation criminelle. Seul l'assassin, Yorgos Loupakas, aurait été condamné. Il a été condamné, il en a pris pour perpète. Et là, Marza Fissa a dit, parce qu'évidemment, ils ont fait appel, les Aubdoriens, Marza Fissa a dit, je serai chaque jour du procès de l'appel dans l'audience. Je ne leur ferai cadeau, c'est ses propres mots, je ne leur ferai cadeau d'aucune minute de mon combat. Donc, cette femme, c'est le personnage principal du film, et c'est quelqu'un pour qui j'ai un immense respect et amour, et j'étais tellement intimidée que j'ai mis 2 ans et demi à lui demander l'interview. J'arrivais pas, cette femme, elle avait cette douleur, cette dignité. J'avais beaucoup de mal, j'allais tous les jours à l'audience. Et puis bon, ça s'est fait. Mais on lui doit énormément.
Est-ce qu'on peut rappeler les épisodes électoraux avec Syriza au pouvoir qui a déçu dans son attitude face à l'Europe notamment et l'abstention, est-ce qu'elle a joué là-dedans? Parce qu'on sait qu'une partie de certains militants de gauche ne votent plus pour des raisons idéologiques et d'autres, j'imagine, d'autres Grecs ne votent plus tout court parce que déçus par le système politique. Est-ce que ça a joué dans le fait que Obdoré, en tout cas, ses idées continuent à percer?
Eh bien, ça jouait à deux niveaux, en fait. Ça jouait au premier niveau, qui était que les Grecs étaient non seulement déçus de leur système politique, mais humiliés et extrêmement en colère. Donc c'est pour cela qu'ils n'ont pas voté pendant plusieurs élections pour l'un des deux partis, le Parti conservateur ou le Parti socialiste, le PASOK, ils n'ont pas voté pour ces deux partis. Cela s'est traduit parce qu'ils estimaient à juste titre que c'est ces deux partis qui ont amené le pays, avec l'aide de l'Union européenne et de la Commission, qui ont amené le pays à la faillite. Pourquoi avec l'aide de la Commission? Je voudrais quand même le préciser. Parce que quand vous aviez, à l'été 2010, je crois, ou l'été 2009 plutôt, vous avez le commissaire, vous avez le directeur de la Banque de Grèce qui vous dit attention, la dette par rapport au PIB va dépasser les 12%, ce qui est énorme. Il faut faire quelque chose et que, en fait, dans les chiffres absolus, même cette dette allait dépasser les 100%, c'est-à-dire que la Grèce ne pouvait plus rembourser quoi que ce soit, et que l'Union européenne ne fait rien. Alors que moi, en tant que journaliste lambda, j'avais reçu ce rapport sur mon bureau, et que l'Union européenne ne fait rien sur le mode « Ah ben nous, on prend les chiffres officiels », qui bien évidemment ne disaient pas ça. Et 4 mois plus tard, vous ne pouvez pas dire « La Grèce a menti, maintenant on envoie le FMI ». C'est pas vrai. Ils savaient très bien ce qui se passait, ils étaient co-responsables. Quand on prête de l'argent à des gens, on vérifie s'ils peuvent payer. Donc il y a une très grosse responsabilité de l'Union européenne dans la faillite de la Grèce. Mais pas seulement, il y a une très grosse responsabilité de l'Union européenne dans la montée d'Obdoré. Parce que, je vais faire une petite parenthèse, la première fois où Obdoré est entré au Parlement, c'est aux élections de mai 2012. En mai 2012 ou en avril 2012, je ne me souviens pas, ça a été le coup de tonnerre, donc on était au pic de la crise. Obdoré rentre au Parlement avec 21 députés. Mais comme il n'y a pas eu possibilité de former un gouvernement de coalition, on a refait des élections en juin 2012. Et en juin 2012, il y avait de très fortes chances que le parti de la gauche radicale à l'époque, le Syriza, l'emporte. Ça, c'était l'angoisse de l'Union européenne. Et donc, c'est pendant cette période-là, de 2 mois, il y a eu tout ce que l'Union européenne avait de responsable, que ce soit Merkel, Barroso. À l'époque, Hollande avait donné une interview exclusive au journal télévisé qui était le plus regardé, le journal de Méga, de la chaîne Méga. Tous ces gens s'étaient succédés pour dire aux Grecs, écoutez, votez européen. Si vous ne votez pas européen, ben nous, on ne pourra pas vous aider. Quand on dit voter européen à cette époque-là, ça voulait dire voter pour les partis qui sont pour l'austérité que l'on va vous imposer, que l'on vous impose déjà. Quels étaient ces deux partis? Ces partis-là, c'était les conservateurs et le PASOK. C'est-à-dire qu'en fait, l'Union européenne demandait aux Grecs de voter pour les mêmes partis qui avaient poussé le pays à la faillite. Mais aucun, et surtout de ne pas voter pour le Syriza qui disait « nous, on va mettre fin à l'austérité ». C'était à l'époque, si vous vous souvenez, vous aviez le journal Paris Match qui avait fait un grand reportage sur Tsipras. On voyait Tsipras, donc dirigeant du parti de la gauche radicale à l'époque, puis après il a dirigé le pays 4 ans en tant que Premier ministre. On voyait Tsipras assis sur le coin de son bureau avec un gros titre, l'homme qui fait trembler l'Europe, sur le mode « Ah, la gauche va arriver, c'est foutu ». Eh bien, ce qui est important pour ces gens-là, c'était que, un, le Syriza passe pas, deux, que l'un des deux parties prenantes de l'austérité passe, donc c'est ce qu'ils disaient aux Grecs. Mais aucun des dirigeants européens, à aucun moment, n'a dit « Bon, écoutez, on a compris, vous êtes en colère, parce qu'à l'époque, on parlait d'un vote de colère. Vous avez envoyé 21 députés nazis au Parlement. On a pris le message. Votez pour qui vous voulez, mais ne votez pas nazis. » Il n'y en a aucun. Aucun. Ça les importait absolument pas qu'il y ait des députés nazis au Parlement. Même ça les arrangeait. C'est un peu comme en 33-39, entre le rouge et le noir, eh bien, on a préféré le noir, parce que les rouges, on n'aime pas. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc, il y a une responsabilité européenne. Certes, c'est les Grecs qui votent dans l'isoloir, mais quand on se paye une crise des salaires réduits, qu'on cherche dans la poubelle à manger, qu'on a une crise migratoire par-dessus, que les retraites ont baissé, et que les écoles sont pas chauffées, qu'on peut plus avoir de médicaments, et que les suicides se sont multipliés, bon, on ne vote pas avec la logique. Hein. La fin est une très mauvaise conseillère. Donc, ça, je voulais fermer cette parenthèse. Et pour en revenir à la question de l'électorat, je me souviens plus de la question.
sur l'abstention et le fait
c'est crucial. Parce que donc, une partie des Grecs ont refusé de voter. Alors, il y en a qui se sont abstenus, il y en a qui ont voté Syriza, il y en a qui ont voté Obdoré. Mais la majorité, le plus grand parti à l'époque, c'était quand même le parti des abstentionnistes. Je ne critique absolument pas les gens qui s'abstiennent, surtout en Grèce, ils ont de très bonnes raisons. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que eux votent. Moi, j'ai assez couvert les élections pour vous dire qu'à 10h du matin, les électeurs obdoriens ont déjà voté. Et ceux qui n'ont pas voté, vous avez les contrôleurs obdoriens qui sont devant les bureaux de vote, qui les appellent un à un. Où est-ce que pourquoi t'es pas venu? Pourquoi t'es pas là? Parce que, et ça, je le démontre aussi dans le film que je viens de terminer, ils utilisent le système démocratique, comme Hitler a fait, pour entrer au Parlement et anéantir, détruire le système démocratique et le Parlement tel que nous l'avons actuellement. Hitler, il n'a pas pris le pouvoir, on lui a donné. Il est arrivé troisième force. Après les élections, il n'y avait pas possibilité de coalition, donc le chancelier lui a donné les rênes du pouvoir. Et dans le premier film, on voit très bien le numéro 2, Elias Kassiviadis, qui est extrêmement dangereux, faire un discours devant 20 000 personnes, devant le Parlement grec, qui plus est, où il dit « Nous, on n'est pas rentrés au Parlement avec les tanks, on est rentrés avec votre vote. » Et c'est vrai. Donc, il faut savoir que si nous, pour des raisons idéologiques, justifiées de par l'histoire, on ne veut plus voter, parce que élection piège à con, pour le coup, là, maintenant, c'est vrai, eh bien, en face, ils votent. C'est ça qu'il faut savoir. Donc, avec 6% ou 7% de l'électorat, ils peuvent, par le jeu de l'abstention et par le jeu des reports des voix, en tout cas en Grèce, envoyer entre 17 et 21 députés au Parlement. C'est-à-dire qu'ils sont troisième force politique. Obdoré, ce n'est pas seulement qu'elle est rentrée au Parlement, c'est qu'elle est restée pendant 7 ans troisième force politique. Dans le berceau de la démocratie, ça fait tâche.
Παράθυρο κλεισμένο σφαλιγμένο σκοτεινό για ποιο λόγο δεν τα ανοίγει της ματαρά να σε ειδώ. Τύρανα. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυρανά. Στάλια σας ταγιάζει ώρες να σου τραγουδώ η καρδιά μου φλόγες βγάζει μα δε βγαίνεις να σε ειδώ. άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά. Άνοιξε, άνοιξε, γιατί δεν αντέχω. Φτάνει πια, φτάνει πια να με τυραννά.
Angélique Kourounis, on rappelle que vous êtes avec nous pour la sortie du film Aube dorée, l'affaire de tous. Et est-ce qu'on peut revenir à l'actualité de plus récente sur notamment la crise sanitaire, comment elle a été gérée par le gouvernement donc, actuel? Et est-ce qu'elle a divisé aussi les poches de résistance, qui, comme on peut le voir ailleurs, ici et ailleurs, des militants qui parfois s'étripent sur... sur des choses, des infos dont on ne sait plus si elles sont vraies ou fausses, entre Internet, des choses comme ça, ou la crise des gilets jaunes aussi, qui a d'ailleurs qui est une crise selon d'où on se place, qui est une crise ou pas, ou une révolte sociale. Comment ça a été géré ça, et est-ce que ça a redivisé les forces vives ou les forces solidaires ou les forces progressistes?
Alors, pour ce qui est des gilets jaunes, je fais partie des gens qui pensent que c'est une révolte, mais mal organisée, mal gérée. Bon, on ferme cette parenthèse. Pour ce qui est de la crise sanitaire, si vous faites référence à la crise sanitaire liée au Covid, parce qu'il y en a une autre en Grèce, oui, qui est due aux 10 ans de crise, qui fait qu'on a baissé 3 fois le budget de la santé, si les gens ne crèvent pas, c'est qu'on a des médecins bénévoles qui font un travail d'enfer pour des salaires, quand ils ont un salaire hallucinant. Enfin, je veux dire, un chef de clinique cardiologique gagne 1 400 € en fin de carrière. Mmh. Donc voilà, juste pour remettre les choses, 1700, pardon, pour mettre les choses au point. Donc la crise sanitaire, si vous parlez de la crise du Covid, alors au début, la première vague, ça a été plutôt bien géré. Ça a été bien géré parce que les Grecs ont eu la trouille de ce qui se passait en Italie, c'est juste en face. Et puis parce que, ce qui est étonnant, extrêmement étonnant pour un pays méditerranéen, puis qui plus est pour les Grecs, ils ont été très disciplinés, ils se sont enfermés tout de suite. C'est vrai que Mitsotakis, l'actuel Premier ministre conservateur, n'a pas attendu le premier mort pour imposer le confinement, fermer les écoles, fermer tout. C'est vrai que c'est peut-être la seule chose de bien qu'il ait jamais fait. Maintenant, la deuxième vague, c'est une cata. C'est une cata parce que Mitsotakis a ouvert le pays au tourisme en juin, parce que les gens étaient à genoux, parce que le tourisme, c'est l'industrie lourde du pays. Il y a un Grec sur 5 qui travaille dans le tourisme. C'est 20% du PIB. C'est 30 corps de métier. Et c'est un pays, c'est le tourisme fait vivre des régions entières. Donc, si les touristes ne viennent pas, ils avaient déjà, avec le premier confinement, perdu l'avant-saison, perdu la saison de Pâques. Les gens allaient crever de faim. Je rappelle quand même qu'en Grèce, le chômage, c'est 380 € par an, par mois, pendant un an, quel que soit le salaire qu'on touchait quand on était actif. Ouais. Donc, c'est pas un pays qui a une tradition d'allocation et d'état social. Alors, donc, il a voulu rouvrir. Il l'a rouvert un peu n'importe comment, sans prévoir les conséquences. Il faut aussi savoir que la population grecque est une population vieillissante. Et la structure familiale et sociale fait que, très souvent, 3 générations habitent, sinon pas dans la même maison, dans le même bâtiment. Donc, les personnes âgées étaient très exposées. Mais d'un autre côté, cette structure familiale et sociale fait qu'il y avait relativement peu de ce qu'on appelle en France EHPAD. On n'a pas eu, en Grèce, pendant le premier confinement et au début du second, l'hécatombe des EHPAD, parce que les gens vivaient avec leur famille, essentiellement. Maintenant, c'est la cata, parce que les Grecs se sont reposés sur leur laurier en disant « on est les meilleurs, on est les plus beaux, on est les plus grands ». On peut aller se promener, on peut voyager dans tout le pays, notamment pendant les vacances, notamment. Ce qui fait qu'il y a eu beaucoup de contaminations à partir de septembre, qui étaient dues au retour des vacances. Et encore plus en octobre, d'où confinement en novembre. Mais quand tu réduis 3 fois de suite le budget de la santé, tu ne peux pas avoir un système médical qui peut faire face à ce type de pandémie. C'est pas vrai, tu ne peux pas l'avoir. Donc la situation a été de mal en pis. Et alors qu'il y avait moins de 1500 cas contaminés en juin et moins de 150 morts, là on est à presque 6000 morts et 150 000 cas contaminés. Dans un pays où il y a en tout et pour tout, en comptant le secteur privé, 1000 lits de réanimation. Donc c'est une cata. C'est vraiment une cata. On ne sait pas du tout comment ça va continuer. Et puis on a affaire à une équipe dont la priorité, c'est la réouverture de l'économie. Ils ont voulu rouvrir à Noël. Du coup, on a découvert qu'ils ont voulu rouvrir peu avant Noël parce qu'il fallait faire tourner l'économie. Du coup, à la fin du mois de décembre, ça a été l'augmentation exponentielle des cas de contamination. Là, ils ont voulu rouvrir l'école le 11 janvier. Ils se sont rendus compte que ça ne le faisait pas du tout. Donc, ils ont fermé les écoles. Ils ouvrent les écoles, ils ferment les écoles. Ce qui est beaucoup plus important, à mon sens, c'est, je pense qu'il y a des gens qui vont sauter dans leur fauteuil en m'écoutant, mais c'est que sous couvert de Covid, l'État grec en profite pour mettre en place des politiques répressives. Des politiques répressives hallucinantes, qui, elles, resteront même une fois Covid parti. C'est pour ça que je dis que c'est plus important. Je ne veux pas dénigrer les morts et je respecte parfaitement la douleur des gens qui ont perdu les leurs ou la douleur des gens qui sont actuellement au fond de leur lit malades. La question n'est pas là. La question, c'est que sous ce couvert de lutte contre la pandémie, il y a une restriction de manifestations qui avait déjà commencé à se mettre en place avant la pandémie d'ailleurs. Une restriction, enfin je veux dire, maintenant la police peut rentrer dans les maisons, il suffit qu'il y ait un procureur avec, mais ils peuvent rentrer dans les maisons. Beaucoup plus grave, on pousse les gens à la délation. C'est-à-dire, ton voisin, ça fait des années qu'il t'emmerde. Eh bien, sous couvert de Covid, t'entends des bruits, t'appelles la police. Ouais, mon voisin, il a une réunion familiale de plus de 5 personnes. Boum, les forces anti-émeutes qui rentrent. C'est terrible. Alors, pour ce qui est de la question migratoire, on n'en parle même pas. Les migrants et demandeurs d'asile vivent notamment dans le camp de Moria, dans le camp de Samos, dans le camp de Lesbos, dans les camps de Kos ou de Leros, dans la boue quand il pleut. Et au moment où je vous parle, on a une vague de froid terrible. Les dépistages sont faibles. Et la seule réponse que l'on offre dans la majorité des cas, c'est un enfermement. Donc, le monde solidaire, et vous avez les pour et les contre vaccins. Je ne vais pas rentrer dans ce débat parce qu'il y a autant d'arguments pour que d'arguments contre. Et tous dénoncent, et je pense qu'ils ont raison, que sous couvert de Covid, en fait, on met en place une politique répressive. Là où moi je me démarque de ce mouvement, c'est qu'une partie de ce mouvement refuse de porter les masques parce que c'est on veut nous faire taire. Là, moi, je dis stop. Le masque, c'est la seule chose que l'on peut faire à notre niveau. Voilà, c'est un peu ça. C'est à peu près ce qui se passe.
Est-ce qu'il y a des forces politiques, d'ailleurs électoralistes ou pas, qui arrivent à tenir un discours face à ça, à avoir un discours d'utopie ou d'espoir?
L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier, hein. L'espoir, c'est ce qui meurt en dernier. sinon, ça ne jouerait pas. De forces politiques porteuses d'espoir actuellement en Grèce, honnêtement, j'en vois pas. La seule chose qui me fait espérer, c'est justement les gens qui se mobilisent à leur niveau, au niveau de leur quartier, comme elles peuvent. Il y a par exemple des convois solidaires qui arrivent de France actuellement. Par exemple, je vous donne un tout petit exemple, le camp des Kurdes à Lavrio, à environ 40 à 50 km d'Athènes, est un camp qui est abandonné par les autorités grecques, par les ONG. C'est des gens qui n'ont rien, qui reçoivent rien. C'est 500 à 1000 personnes en fonction des gens qui arrivent de Rojava ou de Kurdistan. Eh bien, c'est un camp qui est tenu à bout de bras par la solidarité internationale. À bout de bras, il y a des convois de nourriture continuels. Il y a les solidaires grecs qui vont et qui aident. Il y a des médecins qui vont et qui soignent gratuitement. S'il n'y avait pas cette solidarité, ces gens-là, eh bien, ils auraient leurs yeux pour pleurer et on aurait certainement des morts. La même chose se passe avec d'autres organisations qui soutiennent les camps des migrants comme elles peuvent. Parce que peut faire la solidarité internationale quand vous avez 100 000 migrants, dont la moitié dans des camps où l'accès est très difficile? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que sous couvert de Covid, toujours le même, l'accès aux camps des migrants est pratiquement interdit, que les ONG sont fliquées comme pas permis, que, par exemple, vous avez à Lesbos, la mairie de Lesbos qui a interdit la distribution de nourriture chaude mangeable, parce que la nourriture qu'on donne aux migrants est immangeable, parce que contamination, etc. Moi, la seule chose qui me donne espoir, c'est ça. C'est le réveil individuel des gens qui se disent « on peut et on doit faire quelque chose ». Et après, quand ces gens-là se regroupent, ça devient une solidarité. Mon fils, par exemple, depuis des années, il est cuisinier, c'est mon Benjamin, travaille, ses jours de congé, il va et il cuisine dans une cuisine solidaire dans notre quartier. Et il va avec ses amis récupérer des choses que des gens veulent bien donner à la sortie du supermarché. Il y a des gens qui veulent pas s'impliquer, mais ils sont prêts à acheter 3 paquets de pâtes. C'est très bien, on fait avec. Vous avez ces organisations-là, cette prise de conscience-là qui, moi, me donne espoir. Au niveau politique, non. Après le revirement du référendum, je n'ai plus aucun espoir. On peut voter ce qu'on veut. De toute façon, la politique économique est décidée à Bruxelles. Alors, c'est pour ça que si en 68, élection piège à con n'était pas tout à fait vraie, là, maintenant, ça l'est.
Le 20 janvier dernier, j'ai couvert une manifestation au centre d'Athènes, à quelques pas du Parlement, quand un groupe dans lequel j'avais mis les pieds sans savoir s'est révélé être des Obdoriens. Et ils m'ont reconnu. Ils m'ont reconnu être une des personnes qui, des années durant, était derrière eux avec la caméra à faire le film Obdoré, une affaire personnelle. Et c'était angoissant. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir quoi répondre à la question « Est-ce que ce n'est pas toi qui as participé au film de Obdoré, sur Obdoré ?» Ils étaient déjà sur moi. Je me suis pris des coups. Ils m'ont crié dessus. Je me suis fait tabasser. Je suis sorti avec des bosses partout et deux yeux au beurre noir. Et j'ai crié au secours à un moment donné. J'ai même effacé les vidéos que j'avais faites. Je ne pouvais pas faire autrement. La question que je me suis posée, les gens qui me voyaient, pourquoi ils ne sont pas intervenus? Ça a duré 4 minutes, 4 minutes qui me paraissaient très longues avant que les CRS interviennent. Ils avaient peut-être peur, ils étaient indifférents ou ils étaient même d'accord. Et certains collègues m'ont dit, pourquoi tu es allé? Le risque est là. Bien sûr que le risque est là et ça devait peut-être arriver un jour. Parce que pour eux, on est des ennemis. Mais c'est quoi la conséquence? Raser les murs, leur laisser la rue, il n'en est pas question. Et on essaye de trouver maintenant la réponse qui serait la bonne dans le nouveau documentaire qui s'appelle plus « Obdoré une affaire personnelle » mais « Obdoré l'affaire de tous ». Et pour arriver à bout de ce documentaire qui dure déjà depuis un an, nous faisons appel encore une fois à votre générosité. Donnez-nous un coup de main pour pouvoir terminer ce film. Merci.
Très bien, Angélique Couronis, on renvoie les auditeurs et auditrices sur le site internet goldendownpublicaffaires.com. Je signale aux auditrices et auditeurs qu'on peut traduire le site en français en cliquant sur l'onglet en haut à droite pour l'avoir en français. Je crois qu'il y a la version grecque et anglaise et allemande. Comment il va être distribué le film?
Pour le coup, le Covid nous bloque la distribution en salle. On ne sait pas du tout. Le film est déjà parti dans plusieurs festivals. Moi, mon rêve, ça serait de refaire ce que j'ai fait avec le premier film, Obdoré, une affaire personnelle, c'est de parcourir la France, et pas que la France, puisqu'on avait fait ça aussi 3 fois en Allemagne, on avait fait une tournée en Espagne, et là, on compte faire aussi une tournée en Italie, c'est d'organiser des projections suivies de débats. C'est pour nous, et quand je dis nous, c'est mon équipe restreinte, c'est-à-dire Matt Pomme, Thomas Jacobi, mon co-auteur et Maxime Bitter, on est une équipe de 3, c'est de parcourir l'Europe et de faire des projections, des échanges avec les gens qui sont intéressés par cette problématique et de discuter et de partager un verre. Moi, j'amène toujours des olives partout où je vais, je ne suis pas grecque pour rien, et pouvoir essayer de voir effectivement quelle réponse donner. Moi, je pose des questions, j'apporte pas toujours les réponses, peut-être que d'autres personnes ont des réponses. C'est pour ça que l'on fait ça. Si bien sûr le film peut être distribué en salle, ma foi, pourquoi pas, mais c'est pas ma priorité. Notre priorité, c'est vraiment d'aller avec les gens. Et quand on a fait la tournée d'Obdoré, une affaire personnelle, c'était juste un rêve. On a rencontré des gens formidables, on a dormi dans des lieux incroyables, on a eu des débats passionnants, et c'était très bien. C'est ça que nous voudrions. Je voudrais quand même signaler une chose, c'est que ce film, je ne l'ai pas fait seul, je l'ai fait avec Thomas Jacobi, qui est mon co-auteur, preneur de son, il a aussi tourné, et c'est quelqu'un qui, encore ce matin, s'est fait menacer par Obdoré, il a été 2 fois castagné assez gravement, et nous avons tous subi des menaces, nous avons tous été agressés de façon plus ou moins grave. Thomas, lui, quand même, ça a été assez dur. C'est-à-dire que travailler sur Obdoré n'est pas de tout repos, on va dire ça comme ça.
Effectivement. Et on rappelle donc que le premier film Obdoré, une affaire personnelle, est un accès libre sur Internet.
Absolument.
Et
je suis très fière de dire, et ça, Cocorico, il a été intégré dans le système éducatif français en tant qu'outil pour les professeurs de 3e, 2e, 1er et terminale, parce qu'il a obtenu le prix Averroès Junior à Marseille, qui est un prix désigné par les lycéens, et ça nous a fait très chaud au cœur. C'est le plus grand des prix, on en a eu d'autres, mais ça c'était le plus grand. C'est-à-dire que les jeunes, en fait, sont beaucoup plus à l'écoute sur ce type de problème qu'une bonne partie des adultes.
Très bien, merci beaucoup Angélique Kourounis. On vous libère du coup. Merci pour cette heure passée ensemble. Et bonne aventure, bonne vie à ce film, à Aube Dorée, une affaire publique, l'affaire de tous.
J'espère bien passer par chez vous, faire une projection.
Pourquoi pas, bien sûr. Merci à Angélique Kourounis pour cette entrevue enregistrée le 18 janvier 2021. Je rappelle l'adresse du site internet du film Aube Dorée, l'affaire de tous, goldendownapublicaffaire.com. Retrouvez aussi le premier volet Aube Dorée, une affaire personnelle en accès libre sur internet. Retrouvez d'autres informations sur Aube Dorée sur le site antifasciste lahorde.samizdat.net. Pour la musique, on a entendu le rappeur assassiné par Aube Dorée, Pablo Fissas, sous son nom de scène, Kilapé. Chotiria Belou, qui avait rejoint la résistance grecque contre l'occupation des forces de l'Axe et qui a été arrêté puis torturé par les nazis. Et enfin, le groupe Krav Boka avec Sara, Alicia Spla et Alain Léo.
De guerre sur la barricade, du sang mélangé aux larmes.
Bizarre discours, l'espace à matière, masse des psanes.
Pour les tester, les contester, mental radical.
De
guerre sur la barricade,
du
sang mélangé aux larmes.
Bizarre discours, l'espace à matière, masse des psanes.
Είμαστε η γενιά των 500 ευρώ και πλέον μετανάστριες στο εξωτερικό. Η γενιά του Αλέξη, του Παύλου και τη Ζάκη. Γι' αυτό και η αντίσταση για μας είναι ανάγκη.
Που χτίσαμε με δέους και μπογδάνους τις ειδήσεις. Μα φορμή επιδημίας ή επιχείρησης. Σκούπα σε μετανάστες δόλια επίθεση. Στα σπίτια του αγώνα και ό,τι προκαλεί αντίδραση. Στην αντεπίθεση μας ξέρουνε καλά. Ποτέ μας το κεφάλι δεν κρατάμε χαμηλά. Απ' την Αθήνα στην Τουλούζη κοινάνε τα οράματα. Ένα, τρία, ένα, δύο ραντεβού στα οδοφράγματα.
Je suis décalé depuis mes 10 piges. Beaucoup disent que je me néglige. Moi je suis comme toi, toutes leurs préoccupations me dépriment. Ça parle de nombril à la plage, de carrière, de mode à la page. Tape dans le tas, adapte-toi au casque. En exil, beaucoup se plaignent, mais pas grand monde sur la barricade. Ils plaident pour le vote, puis sont trahis, mais ne contestent pas. Tout là-haut, frangin, le message est capté. Ils savent bien que la mémoire s'éteint avec tous leurs écrans télé. Pour les tester, les contester, mental radical.
Ils
de guerre sur la barricade.
Ils
sont mélangés aux larmes.
Ils sont tous coucou, les masses à matière, masse des psanes.
Pour les tester, les contester, mental radical.
Ils
de guerre sur la barricade.
Ils
sont mélangés aux larmes.
Ils sont tous coucou, les masses. Στα μάτια μας τι ψάνε.